Lecture de la quatrième conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 28 mai 1907. Son titre est « Vers une nouvelle naissance ». Elle est extraite du cycle de conférences intitulé « Théosophie du Rose-Croix ». Bibliographie, numéro GA99. Avant-hier, nous avons décrit les régions et les mondes que l'être humain doit parcourir après la mort. Dans le Kamaloka, ou comme on dit dans la théosophie rosicrucienne, dans le monde élémentaire, il se dépouille de tout ce qui le lie encore à son corps, qui est son instrument physique dans notre monde. Nous avons ensuite décrit ce que l'on appelle le Rupa des Vachons, qu'on dénomme aussi le monde céleste ou monde de l'inspiration. Nous avons vu que cette région, qui est à proprement parler le monde spirituel, présente à l'instar de notre monde physique une structure quadruple. Nous distinguons une partie continentale, traversée en tous sens par une sorte de région océanique et fluviale, comparable au circuit du sang dans l'organisme humain. Nous avons décrit dans le Devachan la sphère dite aérienne, par analogie avec l'atmosphère terrestre. Et nous avons mentionné qu'on y trouve tout ce qui anime, excite ou attriste les âmes des êtres qui vivent sur Terre, toutes les joies et les souffrances, les douleurs et les tourments. Mais, à vrai dire, cette sphère est beaucoup plus étendue que notre monde matériel, parce qu'elle englobe encore d'autres êtres très différents qui ne s'incarnent pas dans les corps physiques. Nous avons vu enfin que l'on peut rencontrer dans la quatrième région le modèle préfiguré de tout ce qui sur Terre porte le sceau de l'originalité, de l'idée la plus simple à l'œuvre la plus inspirée de l'artiste, de la plus modeste à la plus grande découverte de l'inventeur. C'est là que réside le principe moteur du progrès sur notre Terre. À part ces éléments qui constituent le monde spirituel proprement dit, nous en discernons d'autres qui rattachent notre Terre à des mondes encore supérieurs. Jusqu'à présent, nous n'avons analysé que ce qui a trait à l'évolution de notre Terre. Toutefois, celui qui accède à l'initiation, s'il conçoit ce que fut notre Terre et ce qu'elle sera, apprend aussi à connaître ce qui la relie à d'autres mondes au-delà de notre système planétaire. De tout ce que nous rencontrons dans le Devachan, le monde de la raison, il y a une chose qui importe. C'est ce que nous appelons communément la chronique de l'Akasha. Celle-ci, à vrai dire, tire son origine d'une région encore supérieure à celles envisagées jusqu'ici, mais si l'on est parvenu jusqu'au Devachan, on peut commencer à la percevoir. Qu'est-ce que la chronique de l'Akasha ? Nous pouvons nous en faire une idée si nous nous rendons compte que tout ce qui se passe sur Terre, ou d'une façon plus générale dans l'univers, produit une empreinte durable sur certaines essences subtiles. Et cette empreinte, ou impression, peut être retrouvée par l'initié. Ce n'est pas une chronique ordinaire, mais bien une chronique que l'on pourrait qualifier de vivante. Supposons qu'un être humain ait vécu au premier siècle de l'ère chrétienne. Rien de ce qu'il a pensé, senti ou voulu ne s'est effacé, mais tout s'est conservé dans ce milieu subtil. Tout cela, le voyant peut le voir, entre guillemets, non pas comme si cette vie était relatée dans un livre d'histoire, mais bien telle qu'elle a lieu. Les mouvements familiers, la démarche, les actes accomplis, les voyages, par exemple, qu'on a entrepris, tous les épisodes d'une vie, tout cela se retrouve dans ces images spirituelles. On peut aussi percevoir les impulsions de la volonté, les sentiments, les pensées. Pourtant, il ne faut pas nous représenter que ces images fassent l'effet d'une empreinte ou d'une copie d'une personne physique, telle qu'elle apparaît ici-bas. Prenons un exemple très simple. Quand un être humain bouge la main, sa volonté en pénètre et anime les moindres parties, et c'est justement cette force volontaire, invisible à l'œil humain, qui s'inscrit dans la chronique de l'Akasha. Ce qu'on y voit en esprit, c'est ce qui en nous agit invisiblement et trouve son expression dans le mouvement physique. Mettons-nous par exemple à la recherche de César. Nous pouvons suivre tout ce qu'il a entrepris. Pourtant, rendons-nous compte que ce sont plutôt les pensées de César que nous surprendrons. Quand il s'est proposé de faire telle chose, c'est toute la chaîne des déductions et des résolutions qu'on peut percevoir jusqu'au moment où, de la pensée, il est passé à l'acte. Il n'est pas facile de suivre un événement concret dans la chronique de l'Akasha. Il faut alors étayer ses recherches en prenant un point d'appui dans quelques renseignements extérieurs. Si le voyant veut élucider un fait quelconque concernant César et qu'il arrive à le rattacher à une date historique connue, le fait recherché s'ensuit facilement. Les dates historiques, à vrai dire, sont souvent contestables, mais elles sont parfois de quelque secours. Quand le voyant dirige son regard vers le passé, il peut surprendre le personnage de César en pleine action, en pleine réalité spirituelle, comme s'il se tenait devant lui, comme s'il lui parlait. Toutefois, si l'on a quelques visions d'événements révolus et qu'on ne soit pas très au courant des conditions particulières inhérentes à ces mondes supérieurs, on peut être le jouet de différentes illusions. C'est bien dans le Devachan que figure la chronique de l'Akasha, mais elle se reflète jusque dans le monde astral, où l'on peut relever parfois des images de la chronique qui apparaissent alors sous la forme d'un mirage. Mais elles sont souvent incohérentes ou même fallacieuses. Il importe d'en tenir compte lorsqu'on entreprend des recherches sur le passé. Un exemple va nous montrer le danger de pareille confusion. Si, en suivant les points de repère de la chronique, nous remontons dans le passé jusqu'au temps de l'Atlantide, avant le déluge qui l'a inondé, nous pouvons certes étudier les incidents de son histoire, mais ces incidents, sous une forme différente, se sont reproduits dans le nord de l'Allemagne, en Europe centrale, à l'est de l'ancienne Atlantide, bien avant que le christianisme s'y fût propagé. Nous y avons donc une sorte de répétition de certains événements de l'histoire atlantéenne avant que la population de ces contrées, sous des influences méridionales, ait acquis une relative indépendance d'esprit. Voici donc un exemple des erreurs auxquelles on est exposé. Si quelqu'un perçoit les images astrales de la chronique akashique et non les images du Devachan, il peut facilement lui arriver de confondre cette seconde série d'événements avec les incidents véritables qui se sont produits dans l'Atlantide. Cette confusion entache les descriptions de Scott Elliott du continent atlantéen, qui en effet sont rigoureusement exactes si on les rapporte aux images astrales, mais qui ne le sont plus si on les compare aux données devachaniques de la vraie chronique de l'Akasha. Il fallait une bonne fois mettre ces choses au point. Dès l'instant où l'on connaît la source d'erreurs possibles, il est facile de contrôler les indications à ce sujet. Une autre source d'erreurs peut encore surgir si l'on travaille avec un médium. Les médiums, s'ils ont une aptitude médiuminique appropriée, peuvent percevoir la chronique de l'Akasha, bien qu'ils n'en voient le plus souvent que le reflet astral. Or, cette chronique se distingue par un trait fort singulier. Quand nous y voyons l'image d'un être humain, il s'y comporte comme s'il était vivant. Si nous rencontrons Goethe, il ne se contente pas de donner des réponses en employant les termes qu'il a jadis effectivement prononcés. Il peut donner des réponses dans le style goethéen. Il peut même arriver que Goethe récite des vers dignes de son génie, mais qu'il n'a jamais écrit lui-même. L'image akashique est si vivante qu'elle continue à vivre et à agir dans l'esprit originel de l'être humain dont elle est le reflet. C'est pourquoi il peut arriver qu'on confonde l'image avec l'être humain représenté. Les médiums croient qu'ils ont affaire aux morts qui continuent à vivre en esprit, tandis qu'ils n'en aperçoivent que l'image akashique astrale. L'esprit de César, son « je » authentique, peut déjà s'être réincarné sur Terre. Son image akashique continue à donner des réponses dans les réunions spirites. Il ne s'agit pas dans ce cas de l'individualité de César, mais bien de l'empreinte durable que son image a laissée dans la chronique. C'est là la source de nombreuses erreurs dans les séances médiuminiques. Pour nous, il nous faut distinguer entre ce qui subsiste de l'être humain dans son image akashique et l'individualité qui poursuit son évolution. Cette distinction est de toute importance. Quand l'être humain quitte le Kamaloka, il s'est déshabitué de toutes les activités pour lesquelles il avait besoin de cet instrument physique qu'est son corps. Il entre dans la région précédemment décrite. C'est une époque très importante qui commence pour lui. Essayons d'y voir un peu plus clair. Tout ce que l'être humain a pensé sur Terre, ses sentiments, ses passions, le destin qu'il a accompli, tout cela lui apparaît dans le Devachan comme formant une nouvelle ambiance dont il a l'impression qu'elle lui est extérieure et qu'elle l'entoure. Tout d'abord, on voit son propre corps physique dans son image originelle, dans son archétype. De même qu'ici-bas nous marchons sur des pierres ou gravissons des montagnes, de même nous foulons dans l'au-delà toutes les configurations spirituelles des objets ou corps terrestres, y compris celle de notre corps physique. C'est précisément ce qui caractérise l'état de l'être humain après la mort. Il a son propre corps physique comme une chose qui lui est extérieure, qui est hors de lui. C'est même à cela qu'il reconnaît que, du Kamaloka, il est passé dans le Devachan. Ici-bas, l'être humain, en pensant à son corps, se dit « Je suis cela ». Dans l'au-delà, voyant son corps, il dit « Tu es cela ». La philosophie du Vedanta fait méditer à ses disciples cette dernière formule afin qu'ils acquièrent par des exercices de ce genre la faculté de dire « Tu es cela » à leur corps physique. En outre, dans le Devachan, on voit autour de soi tout ce qu'on a vécu ou éprouvé sur Terre. Si quelqu'un nourrit ici-bas des sentiments de rancune ou d'animosité à l'égard de son prochain, tous ces vilains sentiments se concrétisent hors de lui-même en une sorte de nuage. Mais cela même lui sera une leçon. Il se rendra compte ainsi de la véritable portée de ses sentiments et des effets qui en découlent dans ce monde. À ce moment, que se passe-t-il exactement ? Considérons l'être humain physique tel qu'il nous apparaît sur Terre. Comment ses organes, ses yeux par exemple, se sont-ils formés ? Il y eut un temps où l'œil n'existait pas encore. C'est la lumière qu'il a créée en l'extrayant, pour ainsi dire, du corps physique. La lumière est le principe de l'œil qui dérive d'elle. Ainsi, les organes physiques sont créés par l'ambiance qui les sollicite. Sur Terre, les forces ambiantes créent des organes dans les corps et les matières physiques. Dans le Devachan, l'ambiance spirituelle dans laquelle nous baignons travaille à notre entité psychique. Donc, tous les sentiments, bons ou mauvais, dont l'être humain s'est pénétré sur Terre, se retrouve extérieurement à lui, dans son nouvel entourage et constitue l'orbite dans laquelle il évolue. Cette orbite influe sur son âme et éveille en elle des organes psychiques. Si sur Terre on a mené une vie vertueuse, les vertus acquises vivent là-haut dans la région aérienne du Devachan et travaillent en esprit à douer l'âme d'organes nouveaux. Ces organes, à leur tour, sont les architectes d'un nouveau corps physique, lors d'une nouvelle naissance. C'est ainsi que toute la vie intime que chacun ici-bas porte enclose dans son âme est projetée vers l'extérieur et travaille dans le Devachan en vue d'une prochaine naissance. Elle éveille les forces qui édifient un nouveau corps humain. Mais il ne faut pas croire que l'être humain n'est à prendre souci que de lui-même. Il a dans le Devachan bien d'autres tâches à accomplir. La nature de ces tâches nous apparaîtra en considérant l'évolution de notre terre. Si nous pouvions reporter notre regard vers le passé, nous constaterions qu'au cours de quelques millénaires, les mêmes contrées ont profondément changé d'aspect. La flore et la faune se sont modifiées, même les conditions climatiques sont devenues différentes. La configuration de la Terre se modifie continuellement, ainsi que ses produits naturels. En Grèce, par exemple, ne pourraient croître aujourd'hui ni les plantes ni les essences végétales qui poussaient jadis sur son sol. Ainsi, la Terre évolue parce que sa configuration se modifie sans cesse. Un laps de temps très long s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance. Quand l'être humain réapparaît sur Terre, il n'y retrouve plus les mêmes conditions physiques et il est appelé à faire de nouvelles expériences. Il ne revient pas deux fois dans la même configuration terrestre et demeure dans les régions spirituelles jusqu'à ce que la Terre ait changé d'aspect. Il y a à cela une excellente raison. L'être humain apprend à connaître une ambiance totalement nouvelle et se développe tout différemment. Imaginons par exemple la vie d'un garçon romain. Elle différait certes de la vie d'un écolier moderne. Nous-mêmes, lorsque nous renaîtrons, nous ne retrouverons guère les conditions d'une existence précédente. Pendant que l'être humain séjourne dans les régions décrites, la face de la Terre se modifie sans cesse. Ainsi, nous progressons d'une incarnation à l'autre. Mais quel est le facteur qui modifie la physionomie de la Terre? Répondre à cette question, c'est en même temps élucider les tâches de l'être humain dans l'intervalle entre deux vies terrestres. Car c'est l'être humain lui-même qui, du haut des mondes spirituels, travaille, sous la direction d'entités supérieures, à la transformation de la Terre. Ce sont les êtres humains entre la mort et une nouvelle naissance qui accomplissent cette tâche. Quand ils renaissent, ils trouvent la face de la Terre changée, dans la mesure où ils ont eux-mêmes contribué à ce changement. Tous, nous avons œuvré de la sorte. Et si l'on demande « Où est le dévachant ? Où est le monde spirituel ?» Je répondrai « Constamment autour de nous. » Il en est ainsi. Les âmes humaines non incarnées sont donc elles aussi autour de nous. Elles travaillent dans notre entourage. Tandis que nous édifions des villes, que nous construisons des machines, les êtres humains qui gravitent entre la mort et une nouvelle naissance œuvrent autour de nous, du haut du monde spirituel. Si un voyant se met à leur recherche et que dans le rayon lumineux il soit capable de percevoir autre chose que la qualité purement sensible qui frappe la vue, c'est dans la lumière précisément qu'il trouvera les morts. La lumière qui nous environne compose le corps des défunts. Ceux-ci ont un corps tissé de lumière. La lumière qui baigne la terre est la matière où vivent les êtres peuplant le dévachant. Observons une plante qui se nourrit de lumière solaire. Ce n'est pas la lumière physique seulement qu'elle absorbe. C'est en vérité tout un travail invisible qui se fait en elle. Et ce sont des entités spirituelles, et parmi elles, les âmes humaines qui font ce travail. Les âmes désincarnées rayonnent elles-mêmes. Elles sont la lumière qui descend vers la plante, elles tissent autour d'elles une trame lumineuse. Si nous considérons les plantes avec les yeux de l'esprit, nous dirons ceci. La plante jouit de la sollicitude des défunts qui l'entourent de leurs efforts bienfaisants. Si donc nous constatons les modifications de la couche végétale qui recouvre la terre et que nous nous interrogions sur les causes de ce changement, nous répondrons que ce sont les morts qui vivent et agissent dans la lumière et que c'est dans cette lumière qu'est réellement le dévachant. Et c'est dans ce royaume lumineux que nous entrons après avoir passé par le Kamaloka. Seul celui qui connaît le véritable séjour des morts a une notion suffisamment claire du dévachant, telle que l'entend la théosophie rosicrucienne. Quand le voyant déploie son regard intérieur, il fait souvent une expérience singulière. Lorsqu'il se tient au soleil, son corps retient la lumière et projette une ombre. Mais qu'il regarde dans cette ombre, et c'est souvent le premier instant où il découvre la réalité de l'esprit. Le corps retient la lumière, mais non l'esprit. Et on peut percevoir l'esprit dans l'ombre que le corps projette. C'est pourquoi les peuplades primitives qui ont encore gardé une certaine clairvoyance disent de l'ombre projetée qu'elle est une âme. Que l'ombre disparaisse et l'âme s'évanouit avec elle. Une nouvelle de Chamisso, qui a écrit « L'homme qui a perdu son ombre », repose sur cette donnée, sans que l'auteur eût été conscient du rapport. L'homme qui a perdu son ombre a aussi perdu son âme, de là sa désolation. Telle est donc dans le Devachan l'activité des êtres humains entre la mort et une nouvelle naissance. Ce n'est certes pas un abandon dans l'inactivité. Les défunts sont les ouvriers du devenir terrestre, et si nous en sommes conscients, nous comprendrons comment le monde progresse. Ce n'est donc pas, comme on l'a souvent dit, une existence de rêve, baignant dans une bienheureuse quiétude. La vie dans le Devachan est aussi active que la vie terrestre. Quand l'être humain a achevé de transposer les activités de sa vie précédente en forces spirituelles et qu'il a tiré de sa vie dans le Devachan des forces nouvelles, il possède désormais la maturité voulue pour redescendre vers une nouvelle naissance. La sphère terrestre l'attire à nouveau. La première chose qu'il retrouve en quittant le Devachan, c'est la région astrale, le monde élémentaire de la théosophie des Rose-Croix. Cette région a le pouvoir de lui conférer un nouveau corps astral. Si l'on répand de la limaille de fer sur un papier et que par-dessous on déplace un aimant, des formes et des lignes apparaissent dans la limaille suivant la puissance de l'aimant employé. C'est de la même façon que la substance astrale, qui dans cette région est irrégulièrement répartie, se trouve attirée puis ordonnée selon les forces que l'âme porte en elle. En effet, ces forces correspondent aux potentialités que l'âme a acquises dans sa vie antérieure. Ainsi donc, c'est l'être humain lui-même qui assemble son corps astral, ces êtres humains, en plein devenir, qui n'ont encore qu'un corps astral, le voyant les perçoit comme des êtres ayant l'aspect d'une cloche évasée vers le bas. Ils foncent à travers le plan astral à une vitesse vertigineuse, à peine croyable. Ces embryons d'êtres humains vont recevoir maintenant un corps éthérique et un corps physique. Ce qui s'est passé précédemment, jusqu'à l'édification du corps astral, dépendait dans chaque cas de l'âme elle-même et des forces qu'elle-même avait acquises. En revanche, la manière dont se constitue le corps éthérique ne dépend pas uniquement de l'être humain dans le cours actuel d'évolution, mais d'entités qui lui sont extérieures. Voilà pourquoi l'être humain est toujours doté d'un corps astral qui lui convient, tandis qu'il arrive parfois que ce corps astral ne s'insère pas complètement dans le corps éthérique et dans le corps physique, ce qui provoque dans la vie un certain déséquilibre et un certain malaise. Si ces êtres en plein devenir circulent à cette vitesse dans l'espace, c'est notamment parce qu'ils sont à la recherche des parents qui leur conviennent, du couple humain qui leur donne la meilleure garantie d'une intégration éthérique et physique en accord avec leur entité astrale. Mais le couple qu'ils rencontrent n'est jamais qu'approximativement le couple idéal. Dans cette recherche, les âmes sont assistées par des entités dont la tâche est de rattacher le corps éthérique au corps astral. Ces entités sont analogues à celles qu'on nomme parfois les esprits des peuples. Ces esprits des peuples ne sont nullement cette insaisissable abstraction qu'on entend communément par ce terme. Ils sont pour le clairvoyant tout aussi concrets, tout aussi réels que notre âme incarnée dans notre corps. Ainsi, chaque peuple, à défaut d'un corps physique commun, est bel et bien doté d'un corps astral commun et des premiers éléments d'un corps éthérique. C'est comme s'il vivait dans un nuage astral, et ce nuage n'est autre que le corps, entre guillemets, de l'esprit du peuple. ces esprits président à l'élaboration du corps éthérique des êtres humains, de sorte que l'être humain, à ce stade, dépend de forces qui le dépassent. Puis vient un moment d'une extrême importance. Aussi important que le moment après la mort où l'on a devant sa mémoire tout le panorama de sa vie passée. Quand l'être humain pénètre dans son corps éthérique et n'a pas encore de corps physique, ce n'est qu'un court moment, mais d'une grande portée, il a la vision anticipée de la vie qui va commencer. Non pas dans tous les détails, certes, mais dans les grandes lignes, il voit ce qu'il attend dans la vie à venir. Il peut alors se dire, il l'oubliera de nouveau lors de l'incarnation, qu'il va au-devant d'une vie heureuse ou malheureuse. Or, il peut arriver, si l'être humain a fait dans sa vie précédente beaucoup de mauvaises expériences, qu'il éprouve comme un choc, qui se traduit par un recul devant l'incorporation dans le corps physique. Cela peut avoir pour effet qu'en réalité, il ne pénètre pas complètement dans celui-ci, et qu'ainsi la cohésion des différents corps n'est pas suffisamment garantie. Il en résulte des faibles d'esprit. Ce n'est pas une seule raison, mais une des plus fréquentes. L'âme se refuse en quelque sorte à s'incarner physiquement. Un tel être humain, n'étant pas intégré, entre guillemets, normalement, ne saurait employer son cerveau d'une manière judicieuse. Seule une âme qui se laisse incorporer selon la règle est à même de se servir intelligemment de son instrument physique. Tandis qu'à l'ordinaire, le corps éthérique dépasse de très peu le corps physique, on peut souvent constater, chez les idiots, des parties du corps éthérique qui, sous forme d'une lueur éthérée, s'élèvent bien au-dessus de la tête. Nous avons là un cas qu'une conception purement matérielle de la vie ne peut élucider et qui s'explique grâce à la science spirituelle.